J'ai sur ce thème-là à Waterloo la dernière fois où j'ai prêché, mais j'ai gardé juste le titre et j'ai changé le prêche. Parce qu'on peut dire tellement de choses sur ce thème-là, parce que tout simplement c'est ce qu'a dit Jésus. Jésus nous a dit, enfin il a dit, quand ses parents sont venus de Jérusalem pour le rechercher, il leur a répondu, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. Et ça c'est un thème qui, ces dernières semaines, ces derniers jours, ont fait ricocher dans ma tête. Ça va, pas de commentaire? Non. Ça a fait ricocher parce que c'est un thème tellement important. Et justement, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment dans l'Église, eh ben, ça me fait plaisir parce qu'on a des équipes qui se lèvent ici dans l'Église et qui s'occupent des affaires de leur Père. Et moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où on va s'occuper des affaires de notre Père, Dieu va s'occuper de nos affaires. Et ça, c'est indéniable. C'est une promesse que Dieu, qu'on en a plein la Bible, mais c'est des promesses que l'on a. Ne vous inquiétez pas. Dieu va s'occuper de vos affaires si vous vous occupez des siennes. Alors, la première fois où j'ai prêché sur ce thème-là, j'ai été un peu éclairé par mon fils, par Nicolas. Parce que, il y a quelques semaines de ça, on était dans un restaurant. Et puis, donc c'est un système de buffet. Donc Pascaline et Cassandre étaient partis se servir. Et puis, je suis resté à table tout seul avec Nicolas. Et puis, Nicolas, il aime bien poser des questions du style « Est-ce que t'aimes la vache qui rit ?» Voilà, c'est ce style de questions-là. Et là, il me regarde et il me dit « Papa, c'est quoi la plus grosse bêtise que tu as fait ?» C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Merci Chanel de me les rappeler. Mais quand vous avez votre fils qui vous pose ce style de questions, alors déjà, vous entendez les mouches. Alors ça, c'est clair que les mouches, elles sont là, elles sont nombreuses, vous pouvez les compter, etc. Mais, et là, ce qui s'est passé, alors c'est pour moi, mais j'ai vu ma vie défiler dans mes yeux, devant mes yeux. Et toutes mes bêtises, enfin la plupart, enfin quelques-unes, sont repassées là. Et je me suis dit, si celle-là, je l'ai dit à mon fils, non, peut-être pas. Celle-là, peut-être celle-là, elle est un petit peu plus petite, mais celle-là, non, pas celle-là, parce que non. Parce que vous avez un fils qui est là devant vous et qui vous regarde avec des grands yeux grands comme ça. Et qui regarde son père comme étant un super-héros. Je suis le super-héros, d'accord? Et quand vous allez dire à votre fils, j'ai fait telle ou telle bêtise, boum, vous descendez du piédestal. Non pas qu'on ait de l'orgueil, mais vous descendez d'un piédestal. Et quand Nicolas m'a posé ces questions-là, j'ai dit, oh là là, je ne peux pas lui dire ça, je ne peux pas lui dire ça. Et à tel point, c'est que je ne me souviens même pas ce que je lui ai répondu. Je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé après. Dans mes souvenirs, dans mon subconscient, j'ai tendance à dire que Pascaline est revenue du buffet avec son assiette pleine et que je lui ai piqué son assiette. Et puis voilà, et ça s'est terminé là. Mais là, j'avais un fils qui s'occupait des mauvaises affaires de son père. Il s'occupait de moi, et c'est gentil, parce qu'il veut pas de mal, Nicolas. Il veut pas de mal. Il veut savoir, et à la limite, il voulait avoir un exemple en disant « Papa, c'est quoi la plus grosse bêtise ?» À la limite, ce qu'il aurait eu besoin, c'est que je lui dise une bêtise pour qu'il se dise « Tiens, celle-là, je vais pas la faire. » Et là, je peux lui donner une liste qui est assez longue. Mais voilà. Et c'est vrai que quand on a des enfants en face de nous, et c'est vrai qu'on le mesure quand on est vraiment parent et qu'on voit ces petits bouts de choux qui s'élèvent, là, qui grandissent, ces bouts de choux qu'on doit éduquer, eh bien, on doit faire attention des fois. On doit faire attention. Mais ça n'empêche qu'on ait des exemples. Et on a un exemple qui est probant, c'est Dieu. On a un exemple qui est probant, c'est Jésus. Dans la Bible, Jésus était là, il est venu sur terre pour nous, pour donner sa vie pour nous sur le bois du calvaire. Et il nous a laissé tellement de préceptes, de principes à suivre, de commandements, de bonnes choses à suivre, qu'on est là. Et qu'à partir du moment où on va suivre ces commandements-là, et Dieu va s'occuper de nos affaires. Alors, on va lire. Alors, est-ce que ça marche? J'ai changé les piles. Non. Gaël, tu peux changer? On va lire Luc 2, 41 à 51. Je vais aller assez vite, mais c'est vrai que ce passage, il est particulier parce que là, on va parler d'un petit bonhomme qui a 12 ans. Un petit bonhomme de 12 ans, c'est l'âge de Nicolas. Il va les avoir dans 2 mois, mais c'est l'âge de Nicolas. Et je me mets à la place de mon petit bonhomme quand c'est comme ça, en me disant, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été à la place de Joseph et de Pascaline qui était à la place de Marie. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph ne s'en aperçoivent. Alors, à cette époque-là, il ne prenait pas un bus. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de moyen de locomotion comme on peut avoir aujourd'hui. Il pouvait avoir des chameaux, des ânes. Et les distances étaient longues parce qu'ils allaient à pied. Et quand ils traversaient des déserts, ils étaient en caravane. Les caravanes, c'était des convois de personnes qui étaient assez nombreuses. Et donc, forcément, eh bien, ça nécessitait à ce que dans cette foule, on pouvait perdre quelqu'un. Et là, les parents donc terrestres, Joseph et Marie, ont perdu leur enfant. Jésus a délibérément quitté ses parents pour rester à Jérusalem. Il l'a fait délibérément. Ce n'est pas un concours de circonstances. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, donc là on revient à cette fameuse caravane, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Donc déjà une journée sans trouver leur fils. Alors imaginez, bon, les mères elles sont un peu comme ça, hein. Nous les hommes on a tendance à plus assumer et à encaisser les choses. Mais les mères, dès qu'elles ne voyaient plus leur enfant, c'est la panique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais bon. Et donc là, on se met à la place des parents qui ont un enfant qui disparaît et on se dit, mais zut, soit il est à Jérusalem. Alors Jérusalem, c'était une grosse ville, hein, comme on peut voir aujourd'hui. Et on se pose plein de questions. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, et il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, mais pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi est-ce que délibérément tu es resté à Jérusalem ? Et pourquoi tu nous as laissés ? Tu nous es soumis, tu es notre enfant ? » Et tu nous dois l'obéissance, tu dois rester près de nous. Moi, je sais que quand on se balade dans la rue avec les enfants, la première chose qu'on dit aux enfants, mais restez bien près de nous, on ne vous paume pas. Et là, Jésus, qui va répondre, il leur dit, ton père et moi te cherchions avec angoisse. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? À 12 ans, il faut quand même avoir déjà une certaine, je dirais pas intelligence, mais une certaine conscience du royaume de Dieu. Il faut que là, Jésus, et bon, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, donc forcément, il avait cette conscience. Je pense qu'il avait une intelligence peut-être supérieure, je ne le connaissais pas à cette époque-là. Mais déjà, Jésus avait le fardeau du royaume. Il avait ce fardeau qui était en lui, et déjà, à 12 ans, il s'est permis de dire, voilà, je vais commencer, et déjà, il commençait à être dans le service de Dieu. C'est-à-dire que là, il était dans une étape de formation. Il était dans le temple et il écoutait les prêtres, il se posait des questions et il répondait et voilà, il se faisait un jeu de questions. Et c'est là où on voit que même Marie, et donc les parents, Joseph et Marie, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et pourtant, Marie a quand même vu un ange, c'est quand même l'ange Gabriel qui est venu lui dire « Tu vas être enceinte et sache que le bébé que tu porteras, c'est le Fils de Dieu. » Et quand on entend cette parole-là, qui disent « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur a dit », on a l'impression qu'elle a zappé le fait que ben, Jésus, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas n'importe quel enfant. Et elle est là et elle ne comprend pas. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on pourrait très bien dire, moi j'ai, en toute modestie, j'ai Dieu qui me confie son enfant avec Pascaline, j'ai mon fils qui disparaît comme ça, j'aurais tendance à dire, hey, Seigneur, tu as une fessée à donner là. Tu as une fessée à donner parce qu'il ne nous est pas soumis. Mais en fait, non, ça va plus loin que ça. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. C'est-à-dire qu'après cette période-là, il faut savoir que Jésus, malgré tout, était soumis à ses parents. Effectivement, il devait s'occuper des affaires de son père, mais il y avait cette soumission à ses parents. Donc là, moi, où je voudrais vraiment en venir, c'est que Jésus avait ce fardeau du royaume. Quand il dit « je dois m'occuper des affaires de mon père », c'est qu'il avait déjà la pleine conscience que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si on n'est pas là pour s'occuper des affaires de notre père. Et c'est pour ça que moi j'ai de la joie dans mon cœur lorsque je vois des événements comme on a en ce moment, avec tout ce qu'on a vu dernièrement et eu ou reçu avec Jean-Marie Ribet, avec Stéphane, avec tous ces événements avec le café Métro. Je pense que à partir du moment où on s'occupera des affaires de notre père, et c'est là justement les affaires de notre père, c'est de pouvoir avoir cette notion de bâtir quelque chose, d'édifier l'Église, eh bien Dieu pourvoira et Dieu abondera dans l'Église. Jésus avait cette notion de passion pour le royaume de Dieu. Il avait non seulement un fardeau, un bon fardeau, et on devrait tous avoir ce fardeau pour le royaume de Dieu. Mais en plus, il était passionné par le royaume de Dieu. Quand il dit « je dois m'occuper des affaires de mon père », je ne pense pas que pour lui c'était une contrainte. Je pense pas qu'il ait eu une contrainte ou un mauvais fardeau ou Dieu, même s'il savait déjà, je pense, ce qui allait se passer plus tard. Mais Dieu lui a mis un fardeau en disant, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on aille apporter ma parole, qu'on aille vraiment remettre les personnes sur le bon chemin. Et donc, il y avait cette passion du royaume et c'est là où notre passion devrait être. Dans l'église, quand on est là, dans l'église, on se doit de pouvoir travailler pour Dieu et de pouvoir dire, Seigneur, ok, moi, je veux que tu me dises où tu veux que j'aille, comment tu veux que j'y aille, ce que tu veux que je fasse. Parce que j'ai cette passion pour toi dans mon cœur. Lorsque j'ai donné ce témoignage, lorsque j'ai fait les offrandes au concert de Stéphane Kerry la semaine dernière, depuis que j'ai vécu cette expérience avec Stéphane, il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu que je n'avais pas auparavant. Pourtant, j'étais chrétien depuis de nombreuses années. Et j'ai un feu depuis ce moment-là où Dieu m'a repris, m'a relevé, m'a remis sur pied. J'ai un feu qui bout en moi parce que j'ai cette passion du royaume. J'ai cette passion de dire, il faut qu'on y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'avance, il faut que Dieu me montre, il faut que Dieu se serve de moi, il faut que je sois un outil. Et ce feu, il est là, il se consume. Et la parole, quand on voit bien, quand on lit dans la parole, c'est bien mis, vous serez baptisés d'esprit et de feu. Et le feu, c'est justement ce fardeau. Ce fardeau du royaume de Dieu. Le feu, c'est de dire, voilà, non seulement je suis baptisé du Saint-Esprit, mais en plus, ce Saint-Esprit génère en moi un feu qui me permet d'avoir cette passion pour le royaume de Dieu. C'est vrai que quand on va donner sa vie à Jésus, avec les gros mots de notre monde, on va dire pentecôtiste, évangéliste, quand on va se convertir, c'est un gros mot, hein. Quand on va voir des gens dans la rue, comment dire, il faut que tu te convertisses, comme Jésus faisait, il faut que tu naisses de nouveau. Ah bon, est-ce qu'il faut que je rentre à nouveau dans le ventre de ma mère? Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Ça, c'est quelque chose qui est parlant. Il faut que tu reviennes à Jésus, il faut que tu recadres ta vie, il faut que tu aies un objectif dans ta vie, il faut que tu reviennes à Jésus. Et là, quand Jésus a répondu à Marie en disant, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon père, elle n'a pas compris. Et c'est vrai que des fois, on va donner notre vie à Jésus. Et puis, à partir de ce moment-là, de ce moment T, où on va donner sa vie à Jésus, et puis les jours, les semaines suivantes, on va avoir des combats. C'est indéniable. Qui n'a pas eu de combat ici? On va avoir des combats parce qu'on est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce Jésus-là, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas à quoi il ressemble. Et je vais donner ma vie à Jésus et je vais cadrer ma vie sur un livre qu'on appelle la Bible, qui est le best-seller mondial. Hein. C'est encore le livre le plus lu au monde aujourd'hui et de l'univers d'ailleurs. Mais on ne comprend pas toujours. Et là, Marie, ça a été son cas. Je ne comprends pas pourquoi il me dit qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Son père, c'est Joseph. Est-ce qu'elle avait zappé le fait qu'elle était enceinte de façon surnaturelle, etc.? Je ne pense pas. C'est après que les yeux s'ouvrent. À partir du moment où vous allez vous donner votre vie à Jésus, vous allez commencer à avoir une vie carrée, où vous allez vous mettre sur une voie qui est la bonne, hein, eh bien, vous allez avoir des yeux qui vont s'ouvrir progressivement. Et Dieu va vous révéler des choses. Dieu va vous révéler des choses. Et il va vous révéler de petites choses pour commencer. Et puis par la suite, il va vous en révéler de plus grandes et de plus grandes. À partir du moment où vous aurez cette intimité, où vous aurez cette proximité avec Jésus, il va vous révéler des choses. Parce qu'il ne demande que ça. Il ne demande que ça. Alors s'occuper du royaume, c'est ça par exemple. J'ai piqué la photo de Chanel hier. Je lui ai envoyé un petit SMS. J'ai dit, Chanel, tu me permets de piquer ta photo? Elle m'a dit, ouais, vas-y, amuse-toi, qu'elle m'a dit. Ça, c'est le café métro. 23 personnes qui étaient là pour annoncer la bonne nouvelle. Pour dire aux gens, mais voilà, ta vie, elle a besoin d'un objectif, elle a besoin de quelque chose. On a besoin de te remettre un sourire sur les lèvres. On a besoin de te remettre des rites d'expression, des pas de doigts qui font que quand tu souris, t'as les pas de doigts qui arrivent. On a besoin de ça, on a besoin de dire aux gens, reviens dans de la joie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte économique qui ne le permet pas, parce que les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets. Et même parfois, moi, je suis encore dans la nuit de vendredi à samedi, j'étais réveillé à 2h du mat. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand je me réveille à 2-3 heures du matin, j'ai des idées noires. J'ai des combats dans la nuit. J'ai des idées noires où tout ressasse, que ce soit mon boulot, que ce soit plein de choses, et on a des expériences, etc. Et j'ai des idées noires. Et puis ce matin, quand je finissais de préparer mon prêche, j'ai vu une image qui disait « Mais quand tu es réveillé la nuit, parle-moi ». Je voulais la mettre ce matin, mais je ne l'ai pas fait. Quand tu es réveillé dans la nuit, parle-moi. Parce que forcément, il y a des choses, on est la nuit, on est au calme, et on a des choses qui tournent, on est dans notre tête, là, et puis on se dit, mais tel, comment je vais gérer ça? Comment ça, je vais le gérer? Et ça, comment je vais faire? Pourquoi? Etc. Et on est là, et on se dit, waouh. Puis il y a Jésus, là, qui est au pied du lit, qui dit, vas-y, parle-moi. Vas-y, donne-moi toutes tes inquiétudes qui sont là, donne-les-moi. Alors attention, je ne dis pas que toutes les épreuves vont être prises, parce que Dieu permet le temps d'épreuves pour pouvoir nous fermer spirituellement, pour qu'on puisse avoir cette stature spirituelle. Mais Jésus n'attend que ça. Il attend qu'on soit là, et puis qu'on vienne près de lui, et puis on dise, tu sais Jésus, ce problème-là, j'aimerais bien que ce soit toi qui t'en occupe. Et Jésus dit, ouais, ok, je m'en occupe. Bien, au fait, celui-là, là, j'ai aussi ce problème-là, à ce niveau-là. Tiens, je me suis fâché avec un tel, j'aimerais bien que ça se règle, cette histoire-là. Puis Jésus va dire, oui, ok, mais est-ce que tu as demandé pardon à cette personne? Occupe-toi des affaires de ton père, moi je vais m'occuper du reste. Est-ce que tu m'as bien remis aussi ce problème-là? Jésus peut nous parler dans ce sens-là, dire, voilà ce problème que tu as dans ta vie, est-ce que tu me l'as vraiment remis? À partir de là, Jésus, eh bien, il est là au pied de votre lit, il est là à côté de vous chaque jour, et il vous dit, mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. S'occuper des affaires de son père, c'est ça aussi. C'est d'ouvrir une nouvelle église. C'est d'aller à Arras et de dire, voilà, non pas pour avoir une église en plus, mais on va apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Parce que beaucoup n'ont pas cette connaissance de Jésus. Je me souviens, Mbouchi, au départ, dit, mais moi, je ne connais pas Jésus, c'est qui? C'est qui, Jésus? On entend parler d'un nom qui voyage, etc. Et puis, mais c'est qui, ce Jésus? Eh bien là, c'est la même chose. Cet après-midi, on va aller et puis on va dire, voilà, vous allez entendre parler de Jésus. Non pas parce qu'on est les meilleurs du monde, mais parce que vous avez besoin d'entendre parler de Jésus. Et pour ça, on a besoin de moissonneurs, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de personnes qui seront présentes et qui, comme au café métro, imaginez, il y a une seule personne qui est au café métro, elle va toucher une personne à la fois. Si on est 50, on pourra toucher 50 personnes à la fois, etc. etc. Alors, je ne suis pas là pour faire un beau prêche de prosélytisme. Ce n'est pas le but. Mais c'est tout simplement d'apporter la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, des gens à qui il y en a tellement. Ça va? Une autre photo que j'ai piquée, et là j'ai rajouté ce verset, donc le dernier verset les deux derniers versets de Matthieu, donc je crois qu'il y en a encore un après. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus le dit, mais je serai avec vous tous les jours, remettez-moi vos inquiétudes, remettez-moi vos joies, vos tristesses, vos peines, remettez-moi vos colères, remettez-moi tout ce qui n'est pas bon dans votre vie, et moi je suis là, et je les prends, et à partir du moment où vous allez commencer à rechercher ma face, eh bien moi je vais m'occuper du reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il y a le d'abord qui est important dans ce verset, et il y a le justice aussi. Vous entendez beaucoup de gens qui disent « Cherchez d'abord le royaume », et ça, ils disent pas la justice. Moi, j'ai tellement l'habitude que je ne peux même plus l'enlever. Mais voilà. Et là, les baptêmes, c'est aussi de dire, voilà, ok, non seulement on apporte la bonne parole, on fait en sorte que les gens puissent donner leur vie à Jésus, qu'ils puissent récupérer cette joie, cette paix qu'ils n'ont plus. Beaucoup de gens n'ont plus de paix aujourd'hui. Ça n'existe plus, la paix. Et donc là, quand on voit le visage rayonnant de cet homme-là qui est dans ce baptistère avec un maillot Love, je l'ai piqué sur le site d'Hillsong, cette photo. Je l'ai piqué. Pour pouvoir aller comme ça et s'occuper du royaume, on va forcément devoir passer par l'édification. L'édification, c'est quoi? C'est la notion de bâtir. Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est élever pierre par pierre un mur, c'est élever non seulement un mur après une charpente, après des tuiles. Vous n'allez pas poser la charpente avant d'avoir posé les murs. Vous n'allez pas poser les murs avant d'avoir posé des fondations. Vous n'allez pas poser des fondations tant que vous n'aurez pas trouvé un terrain qui soit assez stable pour pouvoir mettre ces fondations. Ce terrain, c'est Jésus. Le terrain, c'est Jésus. Jésus a tellement, tellement, tellement de choses à nous donner, tellement, tellement de choses à faire avec nous. J'avais une prière cette semaine. Je me dis, mais Jésus, ce que je voudrais, c'est que tu places les bonnes personnes qui soient sur l'allée. Parce que on pourrait les prendre, ces personnes-là. J'ai pris cet exemple-là, mais j'ai dit, voilà. Après, ces personnes, on peut les prendre une par une. Arnaud. Alors Arnaud, même toutes ces personnes, pour le moment, elles sont sur une chaise. Et ces personnes sur cette chaise, pour l'instant, sont inactives. Et on pourrait très bien se dire, bah Arnaud, ouais, il est grand. Ben non, il est assis. Donc tu ne peux pas savoir qu'il est grand. Mais Arnaud, il a tellement de choses dans son cœur pour Dieu. Il a une soif, si vous saviez, quand vous parlez avec Arnaud, il a une soif terrible. Et Arnaud, il a un cœur qui est sincère, il est dans la louange, il est là, et quand vous avez besoin de lui, il est là. Donc ça, c'est Arnaud. Quand vous prenez Jennifer, c'est pareil. Elle a un cœur pour Dieu. On a eu l'occasion, nous, de la voir cette semaine. Elle a toujours cette banane sur le visage. Elle a toujours quelque chose qui est là. Elle a le sourire, elle vient vous voir, elle a une joie en elle. C'est, voilà. On pourrait, à chaque personne comme ça, Jacqueline, à chaque fois que je vois la voix, Jacqueline, elle vient, elle me voit, et puis on se taquine. Et puis elle a aussi le sourire. On voit, elle est rayonnante. Elle vit des épreuves, mais elle a un cœur pour Dieu. Et quand elle peut, ben, on sait qu'on peut compter sur elle. Bon, Ludovic, toi, ça pour bientôt, j'espère. Tu vois, on va te découvrir, Ludovic. Pascaline, je vous en parle pas, c'est ma femme. Mais si vous saviez la valeur qu'elle a à la maison. Elle a une valeur. Rudy, pareil, il est assis. Mais quand il est debout, eh ben, il a des élastiques sous les semelles. Il a des ressorts sous les semelles. Et Rudy, il sait pas tenir en place. Mais c'est un talent que Dieu lui a donné. Et c'est un talent que Dieu va utiliser. Parce que Rudy, s'il veut s'occuper du royaume de Dieu, eh bien, il va mettre ce talent-là pour Dieu. Et Dieu va l'utiliser. Quand on prend Rita, elle est, c'est une bombe. Rita, elle est là, elle vous dit des choses cash, mais quand elle est tellement sincère, elle a tellement envie que ça bouge. Tout à l'heure, quand je lui parlais de la marche pour Jésus, qu'elle m'a demandé de faire cette annonce, on sentait que ça lui pesait dans le cœur. Elle a dit, mais ouais, la marche pour Jésus, il faut qu'on y aille, il faut que ça marche, il faut que les églises se lèvent. Et elle a raison. Elle s'occupe du royaume de Dieu, du royaume de son Père. Nadège, elle est rayonnante. Moi, je trouve qu'elle a changé, Nadège. Qui trouve que Nadège a changé? Quand elle arrivait à l'église, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. Et maintenant qu'elle est là, moi je vois une femme rayonnante. Nadège, elle est réservée, elle est là. Et quand vous avez besoin d'un sourire, vous regardez Nadège, elle vous envoie un sourire. Tu vois ce que tu dis? Vous savez ce qu'elle vient de me dire? Il n'y a rien à dire. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas entendre. Voilà. Tu ne dois plus le dire. Parce que Dieu, il a tellement de bonnes choses pour toi. Mais je pense qu'ici, et je prends que quelques personnes ici, mais chacun, je peux tous vous prendre un par un. Et forcément, il y en a certains que je connais moins que d'autres, mais Dieu connaît le cœur de chacun. Et à partir du moment où vous donnez votre vie à Dieu et que vous dites, Seigneur, moi je veux être utilisé dans ton service, dans ton royaume, Dieu va utiliser vos talents. Cette semaine, j'ai vu une vidéo, là, des trois, là. Vous l'avez vu cette vidéo, ils ont chanté, là? Bon, c'est bien, ils nous ont prévenus dès le départ en disant, bon, on chante pas très juste. On était prévenus. Je l'ai pas passé, hein, ce matin. Non? Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le défi, ils l'ont relevé. Et ils n'ont pas eu peur de ce qu'ont dire les gens d'eux sur Facebook parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont mis Dieu en avant en disant, voilà, bah, ce chant, ce défi, on va le relever. J'ai entendu du rap, j'ai entendu un chant, un beau chant. Et bravo, franchement, bravo. Et Dieu l'a vu, ça. J'aime bien Facebook. Il y en a qui disent que c'est pas bon, que c'est le... Parce que soi-disant que Gutenberg fait partie d'une secte, etc. Mais quand à partir du moment où vous faites du tri dans Facebook, il y a de bonnes choses qui sont là. Et donc je peux vous prendre un par un comme ça. Moi, parce qu'il y en a certains que je connais plus que d'autres, mais Dieu vous connaît tellement, tellement, tellement. Il connaît le fin fond de votre cœur. Il connaît les talents que vous avez pour lui. Les talents que vous souhaitez utiliser, ceux que vous n'avez même pas conscience qu'ils sont là, donc vous ne pouvez pas encore les utiliser, mais Dieu va vous les révéler. Et moi, ça me fait du bien. Il y a Mark Twain qui a dit ça. Alors Mark Twain, il faut savoir que ce mec-là, il était anti-Dieu. C'est marrant, hein, mais parce qu'aujourd'hui, je vais parler de Mark Twain dans mon prêche. Il le savait, le pauvre. Il a dit, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. À partir du moment où vous vous dites, je ne savais pas que c'était impossible, mais je l'ai fait quand même. Et personne ne m'a dit que c'était impossible. Mais oui, mais sache qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et il y en a certains qui vont vous dire, mais impossible, ce n'est pas français. Ben non, moi je préfère dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et Mark Twain, c'est surprenant parce qu'il était anti-Dieu, mais c'est un mec qui a pris position pour le peuple juif. Et il a défendu les juifs. Et je ne vais pas, parce que j'ai le temps qui passe, j'avais pris quelques notes pour dire voilà ce qu'il a dit, etc. Mais allez sur Wikipédia et puis lisez ce qui est dit sur Mark Twain. Et c'est intéressant de voir que ce mec-là, il a pris la défense des juifs. Et en fait, il dit que dans toutes ses paroles, il dit que les chrétiens sont jaloux des juifs. Alors déjà, moi, j'y crois pas, ça. Je pense pas qu'on soit jaloux. On est peut-être, entre guillemets, envieux. L'envie, c'est pas bon, hein, mais on est envieux parce que le peuple juif est un peuple qui est béni. C'est un peuple qui a été martyrisé. On peut en parler de tous les âges. Les juifs ont toujours été martyrisés. Mais malgré tout, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, que ce soit au niveau des Lévitiques, du Deutéronome, à chaque fois Dieu parle à son peuple en disant « Souvenez-vous, je vous ai sorti du pays d'Égypte, la maison de l'esclavage. Je vous ai sorti de la maison d'Égypte, la maison de l'esclavage. Pourquoi ? Parce que je vais être votre Dieu. » Et Dieu dit ça souvent à son peuple dans l'Ancien Testament. Il dit « Oh, peuple d'Israël, souvenez-vous, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. J'ai fait des miracles pour que vous sortiez. C'est moi qui ai fait que Pharaon vous laisse partir. » Et je ne vous rappellerai pas les plaies qu'il a mis, mais il a bien dit, voilà, c'est moi qui vous ai sorti de la maison de l'esclavage parce que je veux être votre Dieu. Le fait de donner sa vie à Jésus, c'est la même chose. On est dans une maison d'esclavage et Dieu vient et nous prend cette maison de l'esclavage parce qu'il veut être notre Dieu. Il nous met dans son royaume et il dit, ok, c'est moi qui t'ai sorti de la maison d'esclavage parce que je veux être ton Dieu. Et c'est moi qui vais diriger ta vie. C'est moi qui vais mettre en avant tous tes talents. Donc il y a beaucoup à dire. Tous tes talents que tu as dans ta vie. Et Dieu, on a un Dieu jaloux en plus, c'est marqué dans la Bible. On a un Dieu qui est jaloux parce qu'il veut absolument qu'on rentre dans son royaume et qu'on s'occupe de ses affaires. Que faire donc ? 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères et sœurs ? Que faire ? Lorsque vous vous réunissez, chacun peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Quand je parlais d'édification, c'est le fait de construire. La construction, elle se fait déjà en individuel. Lorsque Dieu vient te prendre dans les ténèbres dans lesquelles tu es et qui te dit, voilà, je te sors de la maison de l'esclavage, et voilà, en individuel, c'est moi qui vais t'édifier, je vais te construire. À partir du moment où tu vas t'occuper de mes affaires, c'est moi qui vais te construire. C'est moi qui vais t'édifier, qui vais t'élever, qui vais faire en sorte que tu puisses avoir une stature spirituelle. Et ça, Dieu, c'est sa passion. La passion de Dieu, c'est nous. C'est le fait de prendre chacun un par un et de pouvoir nous édifier, nous faire grandir, faire en sorte, comme Jésus nous l'a demandé, de créer des disciples. Chacun a des aptitudes pour servir dans le royaume. Chacun a des aptitudes, c'est pour ça que j'ai fait le tour tout de suite. Chacun a des aptitudes. Il faut en prendre conscience. Si vous ne les connaissez pas, demandez-les à Dieu. Si vous les connaissez, développez-les. Des fois, j'entends des choses avec des personnes qui disent « Ouais, moi j'ai ça dans ma vie, si Dieu veut, je le développerai. » Mais Dieu veut. Je te rassure, hein. Dieu veut. Dernièrement, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui me dit « Voilà, j'ai demandé à un tel s'il allait être au concert de Stéphane Kerry, et la personne m'a répondu « Ouais, Dieu voulant. » Et il était choqué parce que la personne lui a répondu « Dieu voulant. » Ben oui, Dieu il veut. Dieu veut que tu sois au concert. Si tu ne peux pas y être, ce n'est pas grave. Mais Dieu veut que tu y sois. Comme Dieu veut que tu sois à l'église le dimanche matin. Comme Dieu veut que tous les matins, quand tu te lèves, tu lui dises bonjour, que tu puisses avoir cette intimité avec lui. Comme Dieu veut que tu sois constamment près de lui, à lui parler. Que Dieu veut que tu sois dans son royaume. Que Dieu veut que tu t'occupes de son royaume. Que Dieu veut que tu t'occupes de ses affaires. Vas-y, Dieu veut. Par contre, si dans ton cœur, tu n'as pas envie de... Si c'est dans ton cœur, tu te dis, mais moi, je ne suis pas fait pour être sur l'estrade ou derrière un clavier. Il y en a certains qui ne savent pas jouer de clavier, on ne va pas leur demander de jouer du clavier, parce qu'ils n'ont pas cette notion. Ou alors, s'ils ont vraiment dans le cœur de le faire, ils vont commencer à apprendre, à s'édifier dans le clavier, à faire en sorte qu'ils puissent construire quelque chose où ils sauront jouer du clavier au fur et à mesure des temps, des mois, des années. Un jour, ils pourront, oui, jouer du clavier. Mais là, il faut rechercher la volonté de Dieu. En tant que chrétien, on se doit de prêcher la véracité du royaume de Dieu. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, on pourrait très bien être négatif en disant « Oh là là, le royaume de Dieu, c'est ça ». Et aujourd'hui, on voit que des gens quittent l'Église parce qu'ils sont déçus par l'Église. Ils ne sont pas déçus par Dieu, ils sont déçus par l'Église. Et il m'est arrivé dernièrement là, de voir des gens qui m'ont dit « De toute façon, moi, je ne vais plus à l'Église parce que j'ai été un tel qui m'a déçu, machin. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a enlevé de ses amis sur Facebook et j'ai envoyé un petit mot. J'ai dit « bah tiens, j'ai vu, tu m'as enlevé de tes amis sur Facebook, qu'est-ce qui se passe ?» Cette personne m'a répondu « ben j'ai tellement été déçu de l'Église que voilà, j'ai enlevé tous ceux de l'Église. » Et donc j'ai eu l'occasion de parler un peu avec cette personne. Je dis « mais c'est pour Dieu qu'on vient à l'Église. » Une Église est faite de membres qui veulent, qui sont consentants, c'est-à-dire qu'on est là et qu'on devient chrétien, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien et on est dans une Église, on ne recrute pas. Ce n'est pas une entreprise, on n'est pas là pour dire bah, « tiens, toi t'es beau, toi t'es pas beau, toi t'es bien, je vais te prendre, toi je te prends pas ». Vous savez comme les enfants quand ils font des équipes pour jouer au volleyball, « tiens, toi je te prends, toi je te prends pas ». Et moi j'ai été souvent le dernier à être choisi. Mais voilà quoi. Dans une église, on est là pour utiliser tout le monde, avec les bonnes et les mauvaises volontés. Les mauvaises volontés, on fait en sorte qu'elles deviennent bonnes volontés. Ne nous arrêtons pas à ce que les hommes font, parce que les hommes ne sont pas parfaits. Ne vous arrêtez pas aux hommes. Occupez-vous du royaume de Dieu. Dieu peut changer des caractères. Dieu peut faire en sorte que vous soyez changés dans votre vie. Dieu a changé mon caractère. Même si j'ai encore des choses à rectifier, je ne suis pas parfait, hein, et personne ne l'est. Hein. Si d'ailleurs vous cherchez l'Église parfaite, le jour où vous allez y entrer, elle ne sera plus, hein, parce que vous n'êtes pas parfait. Donc voilà. Il faut qu'on ait le cran de prêcher la véracité du royaume de Dieu et de pouvoir dire « Ok, on y va ». Avec chacun a envie, a cette soif de pouvoir s'occuper des affaires de son Père. Et c'est là où on va. C'est là où on va. C'est là où va l'Église. C'est là où va notre Église. Quand ce matin, Antoine m'a envoyé ce SMS en disant « Le réveil est là ». On était 23 hier au café, vous connaissez Antoine, hein, quand il a un événement comme ça, où ça bouge, Antoine, il est comme Rudy, on a l'impression qu'il pourrait danser comme Rudy. Bon, pas en ce moment, parce qu'avec son dos, c'est pas ça, mais on a l'impression qu'il pourrait se mettre à danser comme Rudy, à faire des pirouettes sur la tête et tout. Et un jour, vous allez voir Antoine faire des pirouettes sur la tête, parce qu'il a envie de ça. Et quand il voit que ça bouge, il boue. Et on devrait tous être comme ça. Il faut qu'on ait vraiment ça dans le cœur. C'est d'avoir cette passion pour le royaume, à dire « Seigneur, on veut s'occuper de ton royaume, on veut s'occuper de tes affaires. On y va, Seigneur. Je suis prêt. Ok, présent. Présent. » Je vais bientôt m'arrêter. 1 Pierre 2, 4 et 5. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Tout est dit. Tout mon prêche est là. Ça peut être ma conclusion. Je peux m'arrêter là. Laissons-nous édifier. Soyons enseignables. Soyons enseignables. Ça, c'est un mot qui, des fois, c'est un gros mot. Voilà. Les gens le prennent comme un gros mot. Il faut qu'on soit enseignable. Il faut qu'on puisse dire « Seigneur, j'ai envie d'être enseigné ». Il y a des fois, des personnes, vous allez leur dire quelque chose et ils ne vont pas vous croire. Vous voyez dans leurs yeux, ils ne vous croient pas. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir la vérité. Peut-être que vous ne l'avez pas d'ailleurs. Hein, mais quand vous essayez d'aider des gens, des fois, vous voyez que ça ne passe pas. Vous voyez, il y a un rideau et ils sont étanches. Ils sont étanches. Mais non, il faut se laisser édifier. Il faut pouvoir dire à Dieu « Seigneur, moi j'ai envie d'être enseignable. Je veux que tu puisses m'enseigner. Je veux que tu me dises, voilà, eh bien, Fred, ou un tel, je peux prendre tous les prénoms. Voilà, ça dans ta vie, je veux que tu le changes. Ça dans ta vie, je vais t'aider à le changer. Ça, je ne veux plus le voir. Par contre, ça, je voudrais que tu l'aies, etc., etc. Être enseignable. Et ça peut être des chrétiens qui vont vous le dire, ça peut être un pasteur, ça peut être des gens dans la rue qui vont vous dire, de toute façon, toi, t'es colérique. Toi, dès que tu montes dans les tours, dès qu'on te parle. Ah, la colère, ben voilà, Seigneur, on m'a dit que j'étais colérique. Est-ce que tu n'as pas envie de me changer, que j'enlève cette colère de moi? Ben si, on y va, allez, et on enlève. Laissons-nous édifier, soyons enseignables. Entendons ce que Dieu a à nous dire. Dieu parle. Et le réveil est là. Le réveil est là parce que moi je suis sûr qu'on va avoir de grandes choses. Je le dis tout le temps, ça je sais que je le rabâche, mais on va avoir de grandes choses. On va avoir de grandes choses et elles arrivent, elles sont là déjà. On a vu de grandes choses hier par rapport au café métro avec tout ce qu'on a entendu, les 23 personnes qui sont là. On va en voir cet après-midi à Arras, on va proclamer des miracles, on va amener notre pierre blanche. Notre pierre blanche, elle est là pour dire aujourd'hui, le dimanche 4 mai, c'est un dimanche particulier. Et le dimanche de la semaine dernière, eh ben, c'était un dimanche particulier, pierre blanche. Et le dimanche de la semaine prochaine, c'est un dimanche particulier, pierre blanche, pierre blanche, pierre blanche. Après, on aura des tas de pierres blanches. Hein. Mais chaque pierre aura une signification parce que chaque pierre sera pour dire voilà, tel dimanche, ça a été un dimanche particulier parce que ça. Tout à l'heure, on a chanté que les cieux se révèlent. Réunis en ce lieu, rassemblés en ton nom, Dieu, nous t'invoquons. C'est le cas ? On invoque le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Alors ta gloire descend, nos cœurs sont embrasés. Soyez baptisés d'esprit et de feu. Donc que nos cœurs soient embrasés par ta vérité, ta justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le sujet de nos chants, la raison de nos vies, ça c'est Jésus, c'est le sujet de nos chants, c'est la raison de nos vies. Moi c'est la raison de ma vie, chaque matin quand je me lève, je me dis pas, aujourd'hui je te redonne ma vie Jésus, tiens ouais. Et puis demain je recommence en disant, aujourd'hui je te la donne pas, je vais peut-être faire une bêtise, je vais tuer quelqu'un. Non, chaque jour quand je me lève, Jésus je suis avec toi. Je suis chrétien, j'ai pas besoin de te redonner ma vie parce que eh bien, ce que tu as construit en moi dans ma vie hier, je l'ai encore. Et je vais continuer pour que ça grandisse encore et que ça puisse continuer de construire. Et on y va. Que les cieux se révèlent, nous voulons te voir. Que les cieux se révèlent, nous voulons te voir, oui. Que les écluses libèrent un torrent puissant. Que les écluses libèrent un torrent puissant. Coulant de ton cœur et qui envahit notre louange. Nous sommes dans ta présence, le visage rayonnant, les yeux fixés sur toi. Tu viens dans la nuée te mettre à nos côtés. Tu enlèves le voile. Quand Marie disait, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit là. Dieu peut enlever des voiles. Des fois, il y en a qui ont des voiles. Hein. Ou des œillères. Les œillères aussi, c'est pas mal. Vous avez vu des chevaux qui, quand vous mettez votre main sur le côté de la tête là, ils ne vous voient pas. Ils ont des œillères. Pourtant, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez secouer la main, ils ne vous voient pas. Hein. Donc il faut absolument qu'on puisse enlever ces voiles, qu'on enlève ces œillères pour rester enseignable. Révèle-nous ta gloire. Révèle ta puissance. Révèle ta gloire, Seigneur. Est-ce qu'on dit amen à ce chant ? Je m'arrête là. J'ai encore une suite, je m'arrête là. Je la ferai peut-être la prochaine fois. Je m'arrête ici. Mais souvenez-vous, il faut que vous vous occupiez des affaires de votre Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que nous nous occupions des affaires de notre Père. Et notre Père... c'est Dieu. Et à partir du moment où on va commencer à s'occuper des affaires de notre Père, Dieu va s'occuper des nôtres. Et Dieu va faire en sorte qu'on avance. Je demande à l'équipe de louange de monter. Soyons conscients toujours de ça. Laissons Dieu agir dans nos vies. Ne soyons pas étanches. Ouvrons nos cœurs pour dire, ok Seigneur, moi j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer avec toi. Ça va Ludovic ? Ouais ? C'était pas trop long ? T'as bien aimé ? Ouais, tu vas pas dire non ? Non ? Autrement, je recommence. Rien que pour toi. Ça va ? Ouais ? T'es encore avec nous ? C'est bien. C'est bien. Moi, je propose qu'on reprenne ce chant, que les cieux se révèlent. On va reprendre ce chant, on va se lever. Et chantez-le comme une prière, chantez-le comme une soif dans vos cœurs. Ayez soif. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Pour que les écluses s'ouvrent et que Jésus vienne en personne pour venir nous visiter là ce matin. Et qu'il puisse nous toucher chacun. Et qu'il puisse nous donner les dons les meilleurs. Réclamez des dons à Dieu. Réclamez-les. Il faut absolument qu'on puisse voir des dons. Il faut qu'on puisse voir des guérisons, qu'on puisse voir des miracles. Il faut qu'on voit des paroles de sagesse, des paroles de foi. Il faut qu'on ait cette foi pour dire on va être des millions dans quelques années à la marche pour Jésus. On va être peut-être des centaines de milliers. J'ai beaucoup de foi là. Millions. Allez, millions, allez, adjugé. Allez. Ouais, on va regrouper Lille et Lens. Voilà. Et on sera un million. Mais allons-y. Ayons des projets pour Dieu. Ayons des projets pour Dieu. Allez, allons-y. Allons-y. Et pour ça, il faut mettre un pas devant l'autre. Vous êtes prêts pour ça ? Amen ? On y va ? On y va.